Chapitre 72. 26 décembre 2017. Louise est assise près de Marie-Laure dans la cuisine. Elles boivent toutes les deux un thé, perdues dans leurs pensées. Valentin et Marie Castille viennent de repartir pour Lyon. Paul-Émile, Pauline et les deux enfants pour Genève. Voilà, la maison s'est vidée. Comme tous les ans, chacun repart vers sa vie. Mais cette fois, Étienne ne reviendra pas. À la mélancolie et la tristesse des lendemains de fête viennent se greffer l'effroi et le vertige de l'impensable. Comme d'habitude, lorsqu'il se passe quoi que ce soit concernant Étienne, marqué dans le garage, où il s'est installé un atelier pour bricoler, il a dû trouver quelque chose à réparer. Si seulement il pouvait réparer notre fils, pense Marie-Laure. Elle s'en veut, n'a rien vu, rien compris. Elle pensait qu'Étienne était juste fatigué. Et puis à cette période de l'année, on a tous mauvaise mine. On sort peu, on mange trop, on boit trop. On fait beaucoup de choses en trop. Tout à sa joie d'avoir ses enfants et ses petits-enfants sous son toit, elle n'a pas prêté plus d'attention que cela à son garçon. « Mon garçon », pense-t-elle. Nos enfants restent petits dans nos âmes de mère. Ils prennent toute la place, pourtant ils restent petits. On pense à eux comme s'ils venaient de naître. Elle se revoit l'embrasser hier soir, presque distraitement. « Bonne nuit, mon chéri, à demain. » Étienne savait qu'il ne reverrait plus sa mère, mais l'étreinte ne s'est pas éternisée. Deux baisers sur la joue et au lit. « Et tu ne sais vraiment pas où ils sont partis ?» redemande Marie-Laure à Louise. « Non. Je sais qu'Étienne avait envie de lumière et d'eau. J'imagine qu'ils se dirigent vers la mer. Ils sont peut-être à Saint-Raphaël, tous les trois ? Peut-être. Étienne adore Saint-Raphaël. Tu crois qu'il va nous téléphoner ? Nous donner des nouvelles ? Oui, sûrement. » Louise pose la main sur celle de sa mère. « Et tu es sûre qu'il ne souffrira pas ?»« Oui, je suis sûre, maman. » Marie-Laure observe ses larmes tomber dans son bol, puis elle regarde sa fille, si belle, si seule. Est-elle heureuse ? De brillantes études, un travail prenant et une solitude qu'elle semble avoir choisie. Assumée, comme on dit de nos jours. Pourquoi tu ne t'es jamais mariée avec Adrien ? Louise n'en revient pas que sa mère évoque ce sujet. Elles ne l'ont jamais abordé ensemble. L'histoire qu'elle vit avec Adrien depuis qu'elle a 9 ans, tout le monde semble la connaître, mais personne ne lui en parle. Il faut dire qu'à la moindre allusion, elle se ferme. C'est à cause de ton frère ? Insiste Marie-Laure. Non, c'est moi qui n'ai jamais voulu. Pourquoi ? À cause d'elle. Qui, elle ? Adrien. La première fois que je la vois, c'est dans la cour de la nouvelle école. D'instinct, je sais que je ne la croise pas par hasard. Je sens qu'elle fait exprès d'être plantée là, sur mon chemin, comme une fleur. Elle a un palais à la main. Elle vient de quitter une marelle. Elle est essoufflée. Nous sommes en septembre. Il fait chaud. Quelques mèches de cheveux blonds collées sur son visage. Ils ne sont d'ailleurs pas blonds, mais presque blancs, décolorés par l'été. Elle est cela, une petite écolière aux cheveux d'argent. Ses joues rosissent quand elle pose les yeux sur moi. Elle s'appelle Louise. Elle a 9 ans. Pourtant, Louise est tout sauf une petite fille. C'est la sœur de mon nouvel ami. Ils se ressemblent, mêmes yeux bleus. Cependant, ils portent chacun dans le regard une chose opposée. Lui est dans l'errance, elle dans l'accomplissement. Jamais personne ne m'a regardée comme Louise. Et je sais à l'instant où j'écris ces mots que personne ne me regardera plus comme elle. Ce regard, c'est une chance. La mienne. Elle devine qui je suis malgré mon apparence. Son frère nous la présente. C'est ma sœur. Elle nous dit « Salut ». Je décline mon identité et déjà, elle ne me croit pas. Quelque chose doute dans la façon dont elle me fixe. Bute sur mon prénom. Je le sens, c'est immédiat. Pas de salle d'attente entre nous. Louise, c'est de la soie, c'est précieux. Louise, c'est aussi du métal et de la porcelaine. C'est l'alliage de la finesse et de la force. Elle est indestructible, douce et délicate. Je la revois souvent dans la cour, le mercredi chez son frère pendant les vacances. Elle fait partie de ma vie. Elle se tient souvent comme ces poupées décoratives que l'on pose sur les canapés. Louise, c'est aussi de la dentelle. Silencieuse, le nez dans un livre. Elle aime apprendre, c'est sa nature. Ce qu'elle préfère, c'est découvrir. Quand elle sent ma présence dans une pièce, elle lève la tête et me sourit sans baisser les yeux et ses joues rosissent toujours. Puis elle reprend sa lecture sans que son sourire s'efface. Je semble être le soleil de Louise, et quand quelqu'un vous considère comme un astre, vous cherchez à vous en approcher, à rester contre. Mais il y a un mur entre elle et moi qui m'empêche pendant des années de sentir sa chaleur. Nous trois. Mes deux amis et moi ne nous déplaçons jamais l'un sans l'autre. Toutes nos vues donnent sur notre trio. Nous n'avons pas d'autre perspective. Nous formons un bloc. Un été, nous partons en vacances tous ensemble. Louise, allongée sous son parasol, me sourit souvent. Sa beauté me trouble. Mais je suis occupée à dissimuler aux autres la fille que je suis. Dans ma démarche, mes gestes, ma voix, je fais le garçon. Ma voix ne va sans doute pas tarder à muer. Cette année-là, j'ai 14 ans et je ne pense qu'à une chose. Ma pomme d'Adam. Quand va-t-elle apparaître? Elle n'est toujours pas proéminente, mais jusqu'à quand? Je me rase alors que je suis imberbe pour que ma barbe finisse par pousser. Alors que paradoxalement, je la redoute comme une petite mort. Pourquoi ai-je si honte de celle que je suis? Pourquoi mon obsession est-elle de la cacher? Avec le recul, je pense que sans mes deux amies d'enfance, elles m'auraient poussée au suicide. Et que sans Louise, je n'aurais jamais connu d'amour amoureux. Pendant ce mois de vacances, un matin, lorsque je me réveille, Louise est assise dans un fauteuil à bascule, dans la chambre que j'occupe. C'est une belle apparition. La maison est vide. Tout le monde est parti pour la journée, sauf nous deux. C'est la première fois que nous sommes seuls. Tu m'aimes ? C'est la première question que je lui pose, parce que je n'en reviens pas que quelqu'un puisse m'aimer. Oui, depuis que je suis toute petite. Tu es toujours toute petite. Non, j'ai 13 ans. Tu as déjà embrassé une fille ? Sur la bouche ? Oui. Non, je n'ai jamais embrassé personne. Tu as déjà fait l'amour ? Sa question me sidère. Ben non, puisque je n'ai jamais embrassé personne. Tu veux qu'on essaye ? Me demande-t-elle. De faire l'amour ? Non, de s'embrasser. Je réponds oui. Elle se glisse sous le drap près de moi, mais pas contre moi. Tu sens comme il bat fort ? En même temps, elle prend ma main et la pose sous son sein. Je sens les battements de son cœur. Son corps est chaud. Elle se déshabille sans fausse pudeur. Elle m'offre sa nudité, tandis que je saisis sa robe. Je ne peux pas la prendre, elle, la serrer. Nous sommes trop jeunes, maladroites, terrifiées. Il faut respecter une distance. Je parcours son corps des yeux. Elle est belle. Je l'envie. Du bout des doigts, je me permets de la toucher, de l'enregistrer. Elle ferme les yeux, tremble, gémit, se courbe. J'ai toujours sa robe dans l'autre main. Je la serre très fort. Je me retiens à ce tissu, comme à une corde, pour ne pas tomber dans le vide que provoque la peur. Après un long moment, comme au bout d'un immense couloir, Louise dit « Je me caresse souvent en pensant à toi. Tu veux voir comment ?» Cela me stupéfie à nouveau. Comment une jeune fille peut-elle avoir autant d'audace et surtout me faire confiance ? Je réponds oui. Elle s'allonge sur le ventre, tourne la tête vers moi et me regarde. Il ne m'a jamais été donné de voir quelqu'un d'aussi beau. Je pose sa robe contre moi. C'est comme si je l'allongeais sur moi. Je me déshabille à mon tour. Je prends la main de Louise, On ne se lâche pas du regard. Elle me réconcilie. Nous réconcilie. Je ne sais plus. Je me sens tellement bien que j'ignore qui je suis. Louise est amoureuse, mais qui aime-t-elle? Et qui de moi a envie d'elle? Je suis épouvantée par mes attirances parce que je n'en ai pas. Mes préférences sexuelles, comme on les appelle, ne se révèlent pas. Comme je suis une fille, je devrais aimer les garçons. Ce serait dans l'ordre des choses, mais rien n'est cohérent. Aucune histoire d'amour ne l'est. Et Louise me bouleverse. Elle me fait bander. Nous nous endormons ensemble. Quand je me réveille, elle a pris mon sexe dans sa main. Je la repousse. Non, ne me touche pas là. Ce n'est pas à moi. La nuit dernière, au moment de partir, Louise m'a dit « Comme tu accompagnes mon frère jusqu'à la mort, j'aimerais que tu en profites pour flinguer Adrien une bonne fois pour toutes. » C'est trop violent ce que tu me dis, Louise. C'est la vie qui est violente. Moi, je n'y suis pour rien. Louise est devenue chirurgienne à cause de moi. Elle me reprend toujours lorsque j'emploie ces mots. Pas à cause, mais grâce à toi. Elle essaie de me convaincre de passer par une transition hormonale puis chirurgicale, de devenir ce que je suis. J'élude depuis des années. Éluder, atermoyer, rejeter, remettre à plus tard, mentir, composer. Je connais tous les subterfuges par cœur. J'ai peur. Je sais que je suis une femme, c'est ma coloc. Louise n'a jamais voulu vivre avec moi à cause de lui. Elle dit que je mens à tout le monde, à commencer par moi-même. Qu'elle m'aimera pareil lorsque j'aurai des nichons et une chatte. Lorsqu'elle emploie ce vocabulaire, je me referme aussitôt. Je ne supporte pas la vulgarité. Elle le sait, se sert de ses mots pour me provoquer. Elle a tout essayé. Je ne me suis jamais entendue avec mon corps, mais je ne suis jamais parvenue à franchir le pas. Cette transition qui aujourd'hui est à la portée des gens comme moi, dont on parle dans les médias, qui semble presque simple, je la rejette. Louise a tenté de me prendre la main des centaines de fois pour que je fasse ce chemin, en vain. Elle m'a présenté des psys, des endocrinologues, mais je ne parviens pas à parler, prendre de décisions. Elle s'agace lorsque j'évoque le médecin que j'ai vu à 6 ans ou pis. C'est du passé, il faut aller de l'avant. Elle peut même s'énerver jusqu'aux larmes. Une fois, à bout de force, elle a fini par me frapper en me disant qu'elle détestait Adrien, qu'elle voulait le voir crever. Elle m'a traité de lâche. Notre plus grosse dispute. Nous ne nous sommes pas vus pendant 11 mois. Il est 20h. Nina, Étienne et moi sommes tous les trois assis en tailleur côte à côte sur un grand lit. Nous venons de trouver une pension à Savone, juste à côté de Gênes, dans le nord de l'Italie. Nous sommes crevés. Nous avons posé un plateau devant nous, étalons du pesto frais sur des tartines de pain et dégustons du vin blanc, le tout acheté à la va-vite. Étienne tenait absolument à ce que nous dormions dans la même chambre. Le propriétaire des lieux n'a pas moufté lorsqu'il nous a vu prendre possession des lieux tous les trois. On s'est tout de suite mis d'accord, moi dans le lit une place et eux dans le lit double. Nina a déjà pris une douche. Elle porte un pyjama moche en coton rose. Étienne s'est moqué d'elle quand elle est ressortie de la salle de bain. « La vache, ça craint ton truc. On dirait le cadeau du Père Noël est une ordure. » On a ri comme avant. Comme quand on était môme, que nous dormions chez Pierre Beau et que nous nous aimions. Nina a répondu à Étienne qu'elle vivait seule depuis tellement longtemps qu'elle dormait nue. Mais là, elle n'allait pas déambuler à poil devant nous. « Demain, nous t'achèterons des fringues et des cartes prépayées, » dit Étienne. « Il faut que j'appelle Valentin. Et moi, mon amoureux, » ajoute Nina. « Si t'as un amoureux, brûle ce pyjama. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, celui-là? Il est normal et gentil. En plus, il est beau. Qu'est-ce que tu sais de lui ?» Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Étienne et Nina me questionnent du regard. « Pourquoi ? Tu as quelque chose à nous dire ?»« Non. » Nina change de ton. « Tu mens. Je sais quand tu mens. Enfin, maintenant, je sais. J'ai lu Blanc d'Espagne. »« Tu as quelque chose à dire à propos de Romain ? insiste-t-elle. Demande-lui pourquoi il est parti de Marne-la-Coquette. Elle se trouble, ne comprenant pas où je veux en venir. Comment tu sais qu'il travaillait à Marne ?
Je le sais.
Au fond, tu es un monstre. Tu veux saboter ma vie, c'est ça ?
Pas du tout.
Non ? Alors pourquoi tu fais ces allusions ?
Parce qu'on m'a dit des choses.
Quelles choses ?
Qu'il avait été viré de ce bahut parce qu'il aurait eu des ennuis avec une élève. Et que l'affaire avait été plus ou moins étouffée.
Qui t'a dit ça ?
Un collègue au journal.
Il t'a dit ça comme ça ? Tiens, au fait, le nouveau directeur du collège Perec, il a eu des soucis avec une élève.
Non, j'ai posé des questions sur lui.
Le ton monte. Je vois dans son regard qu'elle m'en veut. Que rien ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi tu as posé des questions sur lui ?
Parce que je t'ai vu entrer chez lui.
Tu m'as suivi ?
Oui.
Psychopathe !
Étienne tente de calmer le jeu.
Oh, 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 doucement, camarade !
Appelle-le, dis-je.
Comme ça, il te dira ce qui s'est passé.
Et tu en auras le cœur net.
Le cœur net ? De quoi je me mêle ? Qui de nous trois a le cœur net ?
C'est bon !
Tempère Étienne. On peut regarder une série ?
Laquelle ?
Demande Nina.
Breaking Bad ?
Propose Étienne.
Jamais vu.
Moi non plus, dis-je.
Vous êtes des nazes. C'est juste génial.
Étienne disparaît dans la salle de bain après avoir avalé une armée de médicaments. Nina et moi nous regardons un long moment. Nous nous sommes tant aimés. Je ne t'ai jamais demandé pardon pour Paris, le théâtre des abbesses, mon comportement suffisant et inadmissible. Aujourd'hui encore, j'ai honte. Et moi, je ne t'ai jamais demandé pardon pour ne pas t'avoir vu. Moi qui croyais te connaître, moi qui te pensais mon frère alors que tu étais une sœur silencieuse, une fille que tu bâillonnais. Voilà qui est fait.
Ouais.
Nina se lève, enfile ses baskets sans attacher les lacets, pose la parka d'Étienne sur ses épaules et quitte la chambre. « Je reviens », me dit-elle. Elle descend au rez-de-chaussée et trouve les propriétaires de la pension devant leur télévision. Ils sursautent en la découvrant derrière leur canapé. Elle joint les deux mains pour s'excuser de les déranger, tend un billet de 20 euros à l'homme en signifiant qu'elle souhaite téléphoner. À cause de la parano d'Étienne avec sa femme commissaire, il a demandé de ne pas activer les téléphones portables ni retirer d'argent. « Sous aucun prétexte, sinon je suis mort », a-t-il ironisé. « Gardez vos sous », répond la femme à Nina dans un français parfait. Il lui montre dans un même geste le téléphone fixe qui se trouve dans un petit salon attenant à la cuisine. Nina compose le numéro de téléphone de Romain, tandis que l'homme, une télécommande à la main, monte le son de la télévision. Romain répond aussitôt. « Que va-t-elle lui dire ? Va-t-elle lui parler de cette histoire sordide pour en avoir le cœur net ?» Elle est bien avec Romain. Elle n'a pas envie d'en savoir plus. Pour une fois que quelqu'un l'a fait un tant soit peu chavirer quand elle n'y croyait plus. « C'est moi, » lui dit-elle.
« Comment ça va ? Vous êtes où ? »
« En Italie, »